La fracture fermée du cinquième métacarpien, une kinésithérapie précoce, dans le kiné actualité du jeudi 11 décembre 2008. Les accidents de la main représentent 1 400 000 traumatismes par an, dont 620 000 sont considérés comme graves. Leur tendance est en nette augmentation du fait de la culture de loisirs liée aux modifications de la répartition du travail et du temps libre. Enfin, l'espérance de vie augmente, ce risque de façon logique. Les actes opératoires en traumatologie concernant la main et le poignet dans 53% des cas. Source CNAM PMSI FESOM par Jean-Claude Ferrandez, SOS Main Avignon. Chiffre clé en traumatologie, les actes opératoires concernent pour 53% la main et le poignet. Les fractures des métacarpiens et des phalanges représentent une partie importante de ces accidents. Il en découle que leur rééducation concerne fréquemment le kinésithérapeute. Parmi elles, les fractures du cinquième métacarpien sont très fréquentes et présentent un aspect spécifique. Les mécanismes étiologiques sont liés au choc direct d'un objet sur la main ou, plus fréquemment, à la rencontre de la main avec un obstacle, entre guillemets. Le patient se cogne sur un obstacle ou chute au sol et se réceptionne sur la main, le poing étant fermé. L'impact se fait sur le cinquième rayon. Mais très souvent, et rarement avoué et spontanément, il s'agit d'une fracture par coup de poing coléreux sur un mur, une table, quand il ne s'agit pas d'une rixe. Notons qu'il s'agit alors d'un coup de poing mal donné, entre parenthèses non professionnel, dont l'impact ne se fait pas avec la tête des deuxième et troisième métacarpiens alignés dans l'axe de l'avant-bras. La rééducation est proposée soit après une réparation chirurgicale, soit isolément quand il s'agit d'un traitement orthopédique. De façon simplifiée, la chirurgie est indiquée lorsque la fracture induit une modification de longueur du méta, une angulation importante de sa courbure, bascule du fragment de plus de 30 degrés, une désaxation rotatoire importante, clinodactylie. Le traitement orthopédique avec rééducation immédiate est prescrit dans les cas contraires. Dans tous les cas, une immobilisation par orthèse statique réalisée avec une mise en flexion des cinquième et quatrième métacarpophalangiennes, la rééducation suit cette immobilisation. Les différentes fractures et leur traitement. Différentes zones peuvent être distinguées, la tête et le col, la diaphyse et la base. La fracture de la tête, fracture articulaire, ne sera pas abordée dans cet article. La tête, le col. Le traitement de ces fractures dépend du degré de déplacement de la partie distale. Lorsque le déplacement est inférieur à 30 degrés, le traitement est orthopédique. Une orthèse d'immobilisation en sandwich qu'offre la fracture en plaçant l'articulation métacarpophalangienne en flexion à 80 degrés. Une syndactylie est associée pour s'assurer du contrôle antirotatoire. Lorsque le déplacement est supérieur, le traitement est chirurgical par broche ou microvis. S'il n'est pas réalisé, le patient réalise la correction du sinus de la fracture en compensant par positionnement la MCP en hyperextension, ce qui induit à l'issue d'une flexion de l'IPP. Dans tous les cas, une orthèse est mise en place. La diaphyse. La fracture de la diaphyse bénéficie aussi d'un traitement orthopédique s'il n'y a pas de raccourcissement ni de bascule importante du fragment distal ou de rotation du métacarpien. Dans le cas contraire, les techniques chirurgicales s'imposent. L'immobilisation est réalisée par une orthèse identique à celle réalisée pour les autres fractures, mais prenant le poignet en extension en remontant sur l'avant-bras. La syndactylie est de règle. Les métacarpophalangiennes des quatrième et cinquième doigts sont immobilisées en flexion à 80-90 degrés. La base. La fracture de la base simple bénéficie d'un traitement orthopédique. Ces fractures peuvent être compliquées d'entorses métacarpo-carpiennes, justifiant alors d'un traitement chirurgical. L'orthèse d'immobilisation est comparable à celle des fractures diaphysaires. Elle doit prendre en compte la position de broche, affleurant éventuellement. La rééducation. Quelle que soit la fracture et son type de traitement, la rééducation est immédiate. Il s'agit à la fois d'une auto-rééducation sous couvert de l'immobilisation, qui est maintenue 5 à 6 semaines, et d'une rééducation hors de l'orthèse en présence du kinésithérapeute. Les buts de la rééducation sont multiples. 1. Lutter contre l'œdème dont l'origine, selon le cas, est celle du traumatisme, avec réaction histaminique et post-opératoire en relation avec les incisions. 2. Lutter contre le risque d'adhérence et la raideur de l'articulation métacarpophalangienne. 3. Lutter contre un trouble rotatoire et maintenir les amplitudes des autres articulations. La lutte contre l'œdème. Elle est conjointement réalisée par une éventuelle compression par bande, par celle de l'orthèse et par l'effet drainant des mouvements effectués. Des séances de drainage manuelles sont utiles. Les effets du drainage se font à la fois sur le retour veineux et lymphatique. En cas de diminution importante de cet œdème, une adaptation par remoulage de l'orthèse est nécessaire. Elle est rendue possible par la thermomalléabilité conservée du matériel d'appareillage. L'application de froid est généralement citée pour le traitement de ces œdèmes. Mais dans notre pratique, elle n'est pas intégrée à la séance, compte tenu des effets très satisfaisants obtenus par les autres techniques. La lutte contre la raideur de la MCP est réalisée dès la mise en place de l'orthèse. La position d'immobilisation en flexion est celle de l'étirement maximal des ligaments latéraux. Il faut veiller à l'obtention de cette flexion lors de la confection de l'appareillage, ce qui n'est pas toujours facile du fait de la douleur. En cas de flexion insuffisante, une adaptation peut être réalisée lors des jours suivants. La lutte contre la raideur articulaire et les adhérences des tendons extenseurs. Sur les métacarpiens est faite par la mobilisation des tendons dans l'orthèse. Il s'agit de conserver activement un contact pulpe-paume avec les doigts et une extension des interphalangiennes proximales, IPP, et des MCP. La rééducation est une rééducation sans résistance. Débutée à J1, aucune myotrophie ne s'est évidemment installée. Seuls sont recommandés des exercices réalisés dans le vide. Ils permettent un coulissage de l'appareil extenseur. L'essentiel est de conserver ou retrouver l'extension de l'interphalangienne proximale. L'apparition d'un flexum les premiers jours, qui ne se serait pas corrigé, est un mauvais pronostic. Dans le même esprit, le travail de l'enroulement des chaînes digitales doit permettre le plus vite possible une flexion des articulations qui doit amener les pulpes au contact de la paume. Le mouvement doit maintenir une flexion complète des IPP et IPD. Pendant les 5 premières semaines, aucun travail contre résistance n'est réalisé. La récupération de la force, qui est celle de la poigne, se fait lorsque la consolidation est obtenue. Elle est rapide lorsque les amplitudes articulaires ont été préservées. La progression se fait en fonction du niveau du patient. Travail sur balle en mousse molle, puis plus résistante, flexion contre exerciceur avec ressort étalonné progressif. On notera que le poignet est peu concerné sur le plan articulaire dans cette rééducation articulaire. Évidemment, souple, s'il est resté libre hors de l'orthèse, il le demeure même s'il y est inclus. Son immobilisation dans l'orthèse ne provoque que peu de raideur du fait des quelques mouvements spontanés qui sont réalisés par le patient lors de la toilette où cette orthèse est enlevée. En revanche, la stabilisation musculaire se réalise avec des exercices contre résistance. Les exercices de stabilisation rythmique sont utilisés. Les embûches. Le déficit de flexion de MCP vient souvent d'une orthèse insuffisamment moulée en flexion ou d'un patient ne l'ayant pas faite retoucher lors de la diminution d'un œdème volumineux. La rééducation de cette raideur articulaire est alors très analytique en associant travail de flexion active au plateau canadien et des postures après échauffement. Une orthèse proflexion statique ou dynamique permet de poursuivre la séance à domicile. Elle est maintenue la nuit et parfois par période dans la journée. Notons que ce déficit de flexion peut faire penser à tort à un trouble rotatoire alors qu'il s'agit de récupérer la flexion de la MCP pour que le 5e doigt suive de façon physiologique le 4e. Le déficit d'extension de MCP est rare. Il est souvent associé à des patients n'ayant jamais enlevé l'orthèse. Le flexum des IPP, une orthèse pro-extension de port nocturne, aide sa récupération en dehors des séances de rééducation basées sur les postures réalisées au plateau canadien. Cette orthèse peut être une simple orthèse statique de type doigtier prenant P1-P2 ou une orthèse dynamique d'extension. Elle maintient alors la MCP en flexion. Le déficit d'extension active de l'IPP est dû à une diminution du travail actif des interosseux. Ce déficit peut être en relation avec l'hématome fracturaire qui a envahi la loge musculaire et limite l'efficacité de la contraction. Une rééducation basée sur des exercices répétés avec des temps de repos permet souvent de récupérer le déficit. En cas de difficulté, la stimulation électrofonctionnelle est très utile. Le positionnement des électrodes se fait en regard des espaces interosseux en palmaire et dorsal. La main est positionnée sur un coussin triangulaire pour permettre la contraction induite par la stimulation fonctionnelle. Celle-ci provoque une flexion des MCP et une extension des IPP. En cas de rétraction des muscles intrinsèques, le étirement se fait par un travail en flexion des IPP, la MCP étant maintenue en extension. Un bon positionnement au plateau canadien permet ce travail analytique. Les conseils du patient. La coopération du patient est essentielle en rééducation de la main. La bonne compréhension et la bonne réalisation des exercices à reproduire sont fondamentales. Dans les fractures des métas, il faut insister sur certains points. Obtenir un contact pulpe-paume et une extension de l'IPP sous couvert de la MP-stop. Une répétition lente des mouvements. Un aller-retour en 2 à 3 secondes. Une répétition par série de 20 mouvements suivi d'un temps de repos. Un effort en fin de course de flexion et d'extension uniquement après les séries d'échauffement. Les consignes d'hygiène pour l'entretien de l'orthèse sont nécessaires. La permanence du port de l'orthèse 24 heures sur 24 et la longueur de l'immobilisation font comprendre que la chaleur induit une macération qui peut être importante. Malgré les perforations de l'orthèse, les mauvaises odeurs sont très intenses, d'autant que l'orthèse est en matériel plastique. Son lavage quotidien à l'eau froide avec un dégraissant est obligatoire. Son séchage doit se réaliser sans source de chaleur sous peine de déformation. Les résultats de la rééducation sont généralement bons et très bons. Il s'agit d'une rééducation simple pour laquelle les séquelles principales sont prévenues par la mise en place d'une orthèse adaptée. Les algodystrophies sont exceptionnelles, tout comme les exclusions du cinquième doigt, malgré l'existence d'un tendon extenseur propre. Ce défaut est contrecarré d'emblée par l'orthèse en flexion. Les pièges existent, celui de vouloir faire travailler contre résistance trop précocement et faire trop confiance au patient quant au port permanent de l'orthèse. Quelques questions piégeantes permettent de les débusquer. Une face dorsale de la main blessée, aussi bronzée que l'autre, est aussi un indice.